Alors, ça va pour tout le monde. On passe deuxième, c'est le même type de adjudication d'un contrat pour la réalisation d'un lotissement, délimitation des terrains, piquetage sur les lieux et rapport sommaire pour des terrains de villégiature sur le chemin Miwapani.
Une demande de la municipalité de Kipawa. C'est une étude que la MRC donne un contrat à chaque année, normalement. Pour cette année, on a voulu faire, parce qu'on donne des contrats depuis 2017 pour ce genre d'études-là, mais il n'y a jamais de consultants locaux qui ont remporté l'appel d'offres, peu importe les raisons. Alors, la MRC a tenté de faire un appel d'offres sur invitation en invitant seulement les consultants locaux, mais il n'y a pas eu de soumission. Alors, la MRC a négocié de gré à gré une proposition avec le groupe 4 pour faire l'étude, pour éviter de retarder le projet de l'année pour 11 000 $, je crois. Alors, si vous êtes en accord, c'est la meilleure proposition qu'on a obtenue.
Alors, ça va pour tout le monde. Marco, merci. Point 11.3.
C'est un projet de... Ça, c'est à Rimini. En 2022, la MRC a ouvert 14 terrains. Et puis, la même chose, on a les fonds pour financer le chemin. Et la MRC a obtenu une subvention de 78 000 $ pour une contribution du gouvernement pour aider à payer les travaux. On a été en soumission publique. Et là encore, le plus gros soumissionnaire, c'est Construction Girard de Notre-Dame-du-Nord. Puis il y aurait un montant pour la surveillance des travaux. M. Luc Pétier, que vous avez dans l'autre jour.
Alors, la proposition, c'est Construction Girard.
Oui.
Ça va pour tout le monde? M. Gauthier?
Oui.
Merci. Point 11.4.
Je demande la ville de Témiscamingue pour ouvrir des terrains sur le chemin de la Fenière. Il y a déjà des terrains calés, mais ce serait de combler les espaces vacants qui sont dans ce secteur-là. On est en soumission publique encore, puis le plus bas soumissionnaire, c'est le groupe 4, le moins dans
Alors, pour un mont. OK. Mon Dieu Seigneur, il y a une marge, hein, c'est deux soumissions, c'est incroyable.
Pour une erreur?
Non, il n'y a pas d'erreur.
Il n'y a pas d'erreur.
Il y a une firme de Québec, puis il y a une firme qui connaît bien le territoire. Fait que...
Alors, la soumission serait attribuée au groupe CAF. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un proposeur? Cathy, merci. Point 11.5, consultation du ministère des Affaires municipales sur les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement, les OGAT, orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire.
Vous avez dans l'ordre du jour, vous connaissez, c'est tous une méthode par le gouvernement pour imposer ses vues aux municipalités. Bon, vous l'avez vu dans le plan de gestion des matières résiduelles, le gouvernement a des objectifs, il est traduit dans ce document-là, puis les municipalités sont obligées de se conformer à ces obligations-là, si vous voulez. Bon, le gouvernement a sorti un document qui est en consultation jusqu'au 31 mai sur un peu le contenu de règlement d'urbanisme, la façon de financer les projets, de faire du développement sur le territoire. Alors, c'est une proposition qui est en consultation. Le producteur a été invité à une réunion le 5 juin pour en discuter. Alors, le temps d'en prendre connaissance, il est la résolution, s'il y a résolution adoptée, pour être reportée à une prochaine réunion, parce que la consultation se poursuit. Le temps d'avoir plus d'informations.
Alors, le 5 juin, il y aura une rencontre à Rouyn-Noranda sur le sujet. Je serai accompagnée. Daniel m'a dit qu'il pouvait être en maladie cette journée.
Je vais demander attention.
OK. Non, ben garde, on va... On réglera ça.
Je vais t'accompagner.
Oui, c'est parfait. OK. Donc, le 5 juin et au retour, si la discussion auquel on va participer ne donne pas les résultats escomptés, on vous revient avec les résolutions appropriées. Merci beaucoup, Daniel. Alors, point suivant, administration. Samy, adoption du projet de règlement établissant les modalités et la tarification applicables lors du dépôt d'une demande de révision en matière d'évaluation et abrogeant le règlement 158-06-2013.
Donc, si vous êtes d'accord, il s'agit aujourd'hui d'adopter le projet du règlement numéro 226. Donc, un avis de motion a été donné lors de la séance du 19 avril. Et le projet du règlement a été déposé à la même séance. Donc, ce projet n'a pas subi de modification par rapport au projet initial. Donc, vous avez le projet devant vous. Si vous êtes d'accord, il s'agit d'adopter le projet du règlement 12.6.
Questions, commentaires? Alors, résolution pour l'adoption du projet de règlement. Norm, merci. Ça va pour tout le monde? Point 12.2, renouvellement d'adhésion à Mission Objectif Québec. Lynn, la parole est à toi.
Oui, c'est un service qui est offert par le CLD de Rouyn-Noranda, qui a mis en place une structure justement pour participer à ce type d'événement-là. Donc, ils nous ont approché pour savoir si la MRC voulait renouveler à nouveau, parce qu'on avait adhéré à ce service-là en 2022. Donc, ce serait pour un montant de 2375. Cette dépense serait financée à même le budget d'attractivité. Donc, c'est pour offrir des services là, pour des besoins au niveau des entreprises quand ils veulent aller faire l'embauche à l'international. Alexandre?
C'est bon. Merci, Lynn. Point suivant, toujours Lynn, tourisme, autorisation pour la signature d'une entente de partenariat avec la CEPAC.
Oui, donc depuis déjà quelques années, on signe une entente avec la CEPAC là, pour permettre là, à notre population d'aller profiter des lieux du parc Pemikan avec une réduction sur leur accès. Donc, ce serait pour autoriser la signature de l'entente, puis on la signerait pour 3 années. Si vous êtes en accord.
Ça va bien? Bien, merci. COAT, recommandation pour la nomination de M. Bruno Boyer.
Oui, il faut confirmer la nomination de M. Boyer à titre de représentant de la MRC sur le conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence d'Abitibi-Témiscamingue pour un mandat de 2 ans parce qu'ils vont avoir leur AGA très bientôt. Donc, il faut faire une résolution en ce sens-là.
Mais c'est le temps, il n'est pas là aussi.
Simon!
Et on joue
un
tour,
on change
normalement.
C'est Simon? Simon Gélina qui fait la proposition.
Puis,
est-ce qu'il accepte? Bruno, ils ont dit non. Alors, point 12, point 5, attractivité Abitibi-Témiscamingue. C'est, chaque MRC a des représentants sur attractivité Abitibi-Témiscamingue. Et notre représentante, c'est Mme Lynne Gironne, qui est administratrice. Toi aussi, ça va sortir? Mme Lynne Gironne, qui est administratrice, et sa nomination est arrivée à échéance. Donc, on vous propose, étant donné le très grand intérêt de Mme Gironne de poursuivre son implication au sein de l'organisation, de nommer à nouveau Mme Gironne, à titre d'administratrice, pour siéger au conseil d'administration d'attractivité et Abitibi-Témiscamingue. Ça va, ça. Merci. T'es contente? Je suis sûre que t'es contente. Alors, gestion des matières résiduelles. Cathy, la parole est à toi pour le rapport d'activité.
Pour le rapport d'activité, en fait, peut-être juste... au niveau des courbes, des coûts et du tonnage, qu'on peut voir là, que ça suit vraiment la tendance par rapport à l'année passée. Donc, si on compare 2022-2023, tant pour le coût des déchets, tonnage de déchets, ça suit vraiment la tendance. La seule qui a augmenté, c'est au niveau du coût des matières recyclables, étant donné qu'on a retourné en appel d'offres parce que le contrat venait à échéance fin mars. Donc, on a passé 1590 $ par mois à 2400 en avril et ça va être à 2500 en mai. Donc, c'est sûr que les coûts augmentent à ce niveau-là, mais pour le reste, il n'y a rien de particulier, à moins que vous ayez des commentaires ou des questions sur le rapport d'activité.
Avez-vous des questions pour Cathy? C'est bon. Alors, on passe à une décision SEMI, adoption du projet de règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la MRC de Témiscamingue.
Oui, c'est la même chose que le règlement de 226. Donc, il s'agit ce soir d'adopter le projet de règlement 227 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la MRC de Témiscamingue. Sachant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 19 avril et que le projet du règlement a été déposé à la même séance. Donc, le projet initial n'a pas connu de modification. Donc, aucune modification n'a été apportée au projet initial.
Question, commentaire? Sinon, je demanderai un proposeur, M. Gauthier.
Peut-être un commentaire. C'est magique, ça, le droit de préemption. C'est quelque chose de nouveau, ça, ou qui n'existait pas nécessairement?
Ça fait pas longtemps. C'est moins d'un an nouveau que c'était apporté.
Ça nous oblige à avoir un règlement, mais c'est une disposition très favorable pour le milieu municipal. Ça va pour ça? Alors, vidange du bassin de Lixivia, Cathy.
En fait, c'est que notre bassin de Lixivia est pas mal à pleine capacité, puis on se fait beaucoup suivre par Environnement Canada pour s'assurer que le bassin ne déborde pas pour se conformer à la loi sur les pêches. Donc, on a apporté le tout au cage du 5 mai qui recommande en fait d'autoriser la vidange d'une partie du bassin jusqu'à un maximum de 20 000 $ dans le fond, on enverrait le Lixivia dans les eaux, le traitement des eaux de la municipalité de Béarn. Donc, c'est ça. Fait qu'on veut au moins s'assurer qu'il déborde pas. Fait qu'on veut enlever une certaine partie là, pour respecter les normes environnementales.
Question, commentaire là-dessus? Norm? Ça va pour tout le monde?
C'est pour qu'on veut, c'est parce qu'on n'a pas le choix.
Puis, comment ça peut être convenu des fois?
Cohérence. Le mot que tu cherches, c'est cohérence.
Ah, non, c'est, avec ça, on a encore pris bien des mots. Disons que l'autre jour, il met beaucoup d'exercices avec.
Merci beaucoup, Luc. Alors, Cathy, dernier point, un point d'information. Dépôt du rapport de consultation et du PGMR modifié.
En fait, c'est suite à la consultation publique qui s'est tenue fin avril.
Le 24 avril.
Oui, c'est ça. Donc, je devais faire un rapport de consultation suite à cette consultation, en fait. Puis, on a modifié aussi le PGMR pour tenir compte des avis reçus. Donc, ce soir, c'est un dépôt de documents. Dans le secteur, on va transmettre le tout à RC Québec pour analyse de conformité.
Donc, c'est un point d'information. Oui?
Un commentaire là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça super, super intéressant. S'il y en a qui n'ont pas eu la chance comme moi d'assister là, à la consultation publique, elle a été captée là, par TV Témis, on peut l'écouter. C'était très, très le fun. Les points qui en ressortent, là, que moi, je trouve intéressants, c'est la population et des gens qui ont également soumis des mémoires. Ont des préoccupations et des interrogations. En tout cas, interrogations et inquiétudes face au projet d'incinérateur. Puis, je trouve ça intéressant que la MRC s'engage à tenir des consultations publiques spécifiques à ce projet-là, aussi dans le futur. Je pense que c'était d'une évidence, mais qu'il y aura aussi une disponibilité de plus d'informations avant d'aller en consultation publique si le projet va de l'avant. Mais. Moi, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est qu'on ait plus d'informations avant de décider si le projet va de l'avant. Puis, j'avais fait certains commentaires dans ce sens-là au mois de mars. J'ai l'impression que, à date, dans les informations pertinentes en lien avec l'incinérateur, on parle souvent en fait des données en fait du rapport de Luc Alvarez là au niveau des coûts de fonctionnement. Mais je ne sais pas si on a beaucoup, en fait, si on a une étude ou un rapport qui viendrait d'un expert indépendant qui nous dirait que la solution d'incinération, c'est une C'est une bonne solution dans notre contexte. L'autre chose également, quand on parle du projet, je sais qu'on a rencontré aussi récemment là, le promoteur là, qui serait intéressé peut-être à la construire. Puis en posant des questions, notamment sur le pré-traitement des déchets, tu sais, je me demande à quel point qu'on est prêt à s'en aller en construction au printemps 2024. C'est quand même très rapide. Puis je me dis, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, je pense qu'il nous faut davantage d'informations. Moi, j'aimerais ça que le CAGE, avant qu'il change de nom pour CGMR, si c'est, ça faisait partie d'une des recommandations, mais que le CAGE puisse se pencher en fait sur au minimum trois types d'études. Je pense que dans le contexte d'un projet de cette taille-là, à 18 millions de dollars, qui nous engage pour une quarantaine d'années, quand on regarde l'amortissement là, du projet, je trouverais ça intéressant qu'on fasse une étude technico-économique qui généralement nous donne une bonne idée, un bon portrait là, du coût d'opération puis du fonctionnement de ce type de système-là. L'autre chose aussi, je pense minimalement en 2023, dans le contexte climatique, il faudrait également qu'on fasse un bilan comparatif GES entre la méthode actuelle de gestion des déchets et la méthode projetée avec l'incinération. Parce qu'on parle souvent d'une réduction évidente au niveau des GES pour le transport, mais qu'en est-il au niveau du cycle de vie total de ce projet-là? Parce que ça inclut la construction, ça inclut aussi de brûler des déchets, donc probablement un apport aussi là, en combustible fossile éventuellement. Donc on n'a pas vraiment de notion de ça. Puis troisièmement, ça c'est peut-être la chose qui est la plus touchée, parce que je sais que ça fait très longtemps qu'on y travaille, mais une étude d'opportunité, ça semble un peu de base, là, mais ça fait quand même pas loin de 15 ans qu'on a identifié l'incinération comme étant la solution qu'on priorise au Témiscamingue. On y travaille beaucoup. Mais est-ce que c'est toujours, après 15 ans, la meilleure chose à faire? Moi, je pense que ça serait user du principe de précaution que de soit mettre à jour une étude qu'on aurait déjà faite dans ce sens-là, ou soit en faire une si on n'en a pas une complète. Parce que si on s'engage dans un projet comme ça rapidement, puis qu'on n'a pas fait ces démarches-là, si ça marche bien, pas de problème. Mais si on a des problématiques puis on n'a pas fait ces démarches-là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas faire ces études-là. Je pense qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on a besoin de plus d'informations si on veut avancer rapidement là-dessus. Fait que moi, j'aimerais ça, en lien avec les mémoires qui ont été déposées, que le comité CAGE analyse au minimum ces trois types d'études-là sur le projet d'incinérateur pour qu'on soit capable d'avancer rapidement.
Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans les commentaires. C'est les mêmes commentaires qui reviennent depuis les 5 derniers mois. Cela étant, au niveau de deux études que tu mentionnes, il y a déjà des informations qui sont disponibles par le BAP, et pas dans le rapport du BAP, mais dans tous les documents qui ont accompagné les présentations. Le BAP se déroule toujours en deux temps. La première étape, c'est une étape de renseignement. Donc, des experts viennent expliquer les procédés et présenter les données, les calculs, les faits, les dernières informations. La deuxième étape consiste en des présentations qui viennent du public ou qui viennent de parties intéressées avec les commentaires et les références auxquelles ils sont associés. Dans le contexte, il y a notamment sur les GES, il y a déjà des études qui existent. Je pense que le comité du CAGE peut regarder l'étude d'opportunité. Là. Je pense qu'ils sont de toute façon, le comité se penche actuellement sur revoir nos façons de faire à nous en lien avec le PGMR. Je rappelle que par rapport aux matières résiduelles, il y a actuellement une espèce de problématique généralisée sur le fonctionnement proposé et il y a des interventions qui se font là, très activement. Puisque nous, on est en processus sur notre plan de gestion des matières résiduelles et qu'on le révise, je pense qu'il y a certaines études qui peuvent être mises à jour. Il y en a d'autres qui existent déjà. On regardera ce qui est pertinent de voir. Mais je pense qu'on aura une discussion avec Cathy et Lynn là, sous peu pour voir justement qu'est-ce qu'on va récupérer, les documents qui existent déjà. On ne refera pas à grands frais des études qui existent déjà. Mais il faut vérifier aussi ce qui nous manquerait pour justement pouvoir que le CAGE puisse avoir toute l'information. dans le contexte, je pense que le commentaire est approprié. Sur les commentaires des citoyens, il faut quand même se rappeler qu'il y a une discussion aussi qui se tient au niveau du Conseil de la MRC. Alors, ces commentaires-là, les gens les ont reçus. Ont reçu les commentaires. Le rapport des consultations a été rendu disponible. Donc, le fait d'en avoir tenu compte dans la soumission du projet qui va être présenté au ministère de l'Environnement. Non, ministère...
Recyc-Québec.
Recyc-Québec, merci beaucoup. Qui sera présenté au niveau de Recyc-Québec, bien, je pense que ça fait aussi... état de ce que les gens nous ont dit. Je ne sais pas si il manque des informations. Luc?
Bien là, il faut comprendre qu'on revit d'une démocratie. La majorité des maires ont dit qu'il fallait aller de l'avant. Aller de l'avant, ça ne veut pas dire qu'on va faire un incinérateur au mois de décembre. C'est de continuer le projet. Ça, c'est la majorité des maires. Nous, j'ose avec mes citoyens, ils sont en accord en majorité avec ça. Là, on est en train de faire l'inverse. Là. Mais il y a une chose qu'il va falloir porter à l'attention des gens. La municipalité de Val-d'Or a le même problème.
Un petit peu plus gros quand même.
Oui, mais ma crainte, c'est que la ville de Rouen, lorsque le projet s'y est fait à Val-d'Or, puis qu'ils ont du trouble déjà avec le VLT en volume, ils sont obligés de faire des nouvelles cellules. On lit dans les cellules. Ils vont nous dire un jour, là, on continue, là. Va-t'en à Val-d'Or. À quel prix, je ne sais pas. C'est encore des trucks qui font 4,5 000 au galop. On va pouvoir ajouter 220 km. Puis on dit aujourd'hui qu'on protège l'environnement. Tu sais, à un moment donné, faut rongler à tout ça. Là. Moi, je vois mal la ville de Rouen de continuer à les accepter pendant qu'on pourrait aller les traiter ailleurs. Parce qu'ils ont un problème, eux autres, de territoire. Là.
2036.
Fait que... Ma crainte est bien plus que Val-d'Or ou Amos, c'est important. J'ai une grosse crainte là-dessus.
Bien, puis je reviens là, sur les GES. L'étude est faite. Je ne l'ai pas. Moi, je l'ai lue. Je suis allée chercher les conclusions. L'étude, elle est disponible. Puis effectivement, les GES de transport, c'est quand même plus de 50 % des GES émis. Là, fait que c'est quand même une. L'étude, elle est faite. Elle est disponible. Le site du BAP est quand même assez accessible aussi, c'est public. L'élément que nous demande Alexandre, de toute façon, le CAGE y travaille déjà.
Ah oui.
Fait que je pense qu'il faut vraiment s'y pencher de façon très ouverte et d'aller à fond là-dedans. Est-ce que c'est dans le contexte où on révise nos façons de faire, de quelle façon on va maximiser les impacts qu'on a à faire?
Mais c'est ça qu'on continue à pleurer.
C'est ça. C'est exactement ça. Fait que Dans le contexte, il y a trois études. Là. Il parlait de trois études. Moi, je pense qu'il y en a une qui pourrait être intéressante pour nous. Mais au-delà de ça, on va partir de l'information qui existe déjà.